on a fait une tribune avec des chefs, et pas que des chefs d'ailleurs, sur la dégastronomisation de la France. Alors bon, ça date d'une quarantaine d'années maintenant, hein. On voit un bistrot qui n'est pas repris en ruralité, puis on voit, on se dit, oh, bah, c'est pas grave, puis on voit un grand marchand de sandwich américain qui vient s'installer, on se dit, oh, bah, c'est pas grave non plus, ça n'empêche pas que. Bah, tout ça finit par télescoper des centres-villes, des centres de villages, une ruralité où on ne trouve plus rien, et même pas un sandwich de qualité. Donc je suis en me réimplantant dans des communes comme celle-là, bah, on peut peut-être relancer l'idée, vous voyez, vous avez un pain sur table qui est un bon pain, mais si vous ne soutenez pas le boulanger qui est à 10 km d'ici, bah, il ne vivra jamais de son... Ou il ne pourra même jamais retransmettre sa boutique à d'autres, quoi, ou à des gens qui fallait. Donc c'est des combats qui sont des combats de fond quand on commence à rentrer dans l'âge. Et j'étais surpris que dans cette tribune, bah, j'ai des jeunes gens comme Jacques Marcon... le fils Rollinger, enfin, tout ça qui relaie l'idée que la ruralité, si on laisse tomber, ça va être... Et c'est cette dégastronomisation de la France, elle est réelle. Hein. Donc, alors la gastronomie, ça ne passe pas que par les 1500 chefs et chefs, eux, qui défendent une cuisine d'auteur. Bon, bah, ça, c'est une petite lisière, finalement. Mais la France, c'est quand même 175 000 restaurants. On l'a oublié, quoi. Donc on se dit, bah ouais, il ferme. Alors quand ça ferme, en général, c'est remplacé par des gens qui ne font pas du fait maison. Et tant qu'on n'a pas cette loi cadre votée sur le fait maison, bah, on ne protégera pas, un, l'artisanat, la transmission des savoir-faire, et on ne protégera pas le bon restaurant. Aujourd'hui, tout le monde était restaurateur. Prenez n'importe quelle supérette dans une petite ville, elle sort trois tables, elle réchauffe dans des micro-ondes, et on trouve ça... Et on se dit, bon, oui, bon, c'est pas si mal. Puis finalement, on finit par s'habituer à ce délitement. Et vous regardez les chiffres de cette année, le tourisme, les gens ont été au rendez-vous, mais ils n'ont pas consommé tellement la restauration. Et la France arrive derrière l'Espagne et l'Italie.
Un restaurant.
Oui, en termes de restaurant, parce qu'il n'y a pas eu de consommation en France au niveau de la restauration. Et donc, il faut réimplanter. Heureusement qu'avec des gens comme Robert Wessman, il dit, ah, moi, je suis un passionné de la gastronomie française et du vignoble français, donc je viens, j'investis, ça vous aide. Mais imaginez quelqu'un tout seul, même moi tout seul, je peux faire quelques ouvertures, mais financièrement, il faut une surface financière pour mettre sur le ramp-up cette idée. Et c'est passionnant que quelqu'un comme Robert Wessman se dise, mais... moi, les terroirs français, les terroirs de vin et les terroirs de gastronomie, tout ça est lié, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Or que il y a des gens qui, en France, vous disent « c'est pas si grave ». Ben non, c'est pas grave, mais c'est quand même une perte de notre culture, hein, et de notre patrimoine. On a toujours l'impression que c'est pas grave de perdre son patrimoine. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui, pour les générations à venir, ça, on le paiera cher, on dira ben, « oui, la France, bon, bah, on peut la contourner. Finalement, il n'y a pas grand-chose à y faire. Et ce qu'on développe avec Robert Wessman ici et toute l'équipe, Aymeric, Antoine, c'est l'idée que, un, oui, venir déguster du vin, oui, garder et protéger un vignoble, mettre une gastronomie autour à tous les niveaux. Là, on s'est dit, bah, la bistronomie, finalement, serait la bonne clé pour se poser là. Mais on a aussi des ambitions de développement... qui sont pour étendre un petit peu ça en termes d'attractivité touristique. Quoi. C'est vrai, carrément.
C'est pas fait exprès.
Vous allez dormir, ça sera. Il l'a repéré, il n'est pas trop gros. On va lui faire une côte, là. Très bien. Non, mais...
Et qu'est-ce qui vous séduit ici, dans le Bergerac, quoi, dans ce coin ?
Ah, moi, c'est l'ambiance de la ruralité, le vignoble. Hein, je vous dis, c'est très particulier que vous travaillez dans un vignoble ou dans un autre, mais l'esprit du vignoble, c'est quand même des gens qui ont un savoir-faire absolument incroyable. C'est un travail, qu'on le veuille ou non, qui demande une intensité physique qui est assez grande. Donc ça fait des gens assez touchants, souvent avec beaucoup d'humilité. Donc, et c'est très reposant par rapport à Paris ou aux grandes villes. Mais en tout cas, moi, je suis basé à Paris. Et d'avoir des gens qui ont des débits de parole en racontant tout et n'importe quoi. Et ici, vous racontez pas, mais vous faites. Donc c'est ce qui m'a plu et qui m'a de nouveau donné envie de venir en ruralité, c'est ce lien avec cette relation avec le vivant, mais le vrai vivant, de la terre à l'assiette. Ça, c'est là, vous avez les mains dedans. Et c'est vrai que tout le monde dit, ah, mais c'est fou, tu fais 6 heures de voiture pour y aller. Bah ouais, mais je le dis à personne parce que l'impact carbone va me faire mourir. Mais vraiment, j'ai pas de peine à le faire. Je suis parti ce matin, il était 7h en gros. Je suis sorti de Paris, j'ai roulé tranquillement. Hein. J'arrive ici pour le premier service. Ce soir, je fais le deuxième service avec Antoine. Demain, service de dimanche midi. On fait les mises au point qu'il y a à faire pour la carte d'automne que vous êtes en train de déguster, qu'on est en train de faire évoluer. Et puis, faire le point aussi, parce que c'est, on ne s'attendait pas non plus à un tel succès. Mais regardez, beaucoup de gens viennent ici, disent « Ah oui, c'est bon, c'est reposant. Ouais. » Je pose la voiture et... Voilà, donc ça veut dire que c'est possible de travailler en ruralité, c'est possible d'y installer des jeunes chefs. Antoine est un jeune chef, il a des repères qui sont absolument incroyables parce qu'il connaît la région comme sa poche, donc tous les petits producteurs, fournisseurs possibles, les huileries et autres, il est au fait de tout ça. Donc des fois je lui dis non mais arrête, je suis pas là. Ah ça y est, les cèpes sont là, on va réfléchir à un truc et... Non, mais c'est la dynamique aussi de la jeunesse qui n'a pas, elle, non plus envie de perdre ses repères. Si des gens de ce niveau-là acceptent de revenir travailler dans leur région en mettant toute leur implication et tout ce qu'ils ont appris dans des grandes maisons parisiennes ou ailleurs, le dire, bah non, bah, je reviens chez moi et je le fais et j'ai aussi des petits producteurs. On connaît notre marchand de volaille, on connaît notre marchand d'œufs. Le dimanche matin, on est sur le marché d'Issy-Jacq. Enfin, on arrive à faire... Et moi, j'ai un fils boulanger qui, pareil... cherche à se faire installer en ruralité. Là, il est sur Nice, entre Nice et New York, finalement. Et il me dit, non, moi, je veux retourner. Je veux de nouveau un four à bois. Je veux faire des pétrilandes. Je veux mélanger mes blés, etc. Et ça. Donc, vous voyez, ce phénomène qu'on a de se dire, ah, là, tout s'est digitalisé. Trop de quelque chose provoque toujours son contraire. Donc, aujourd'hui, on a des jeunes gens qui disent, bah, je veux revenir au vivant. Vous savez, et je vous laisse manger chaud parce que c'est terrible. Sinon. Mais quand vous regardez le concours de l'œuf en beurrette et le concours des pâtés en croûte, c'est parti des réseaux sociaux. Ouais. Quand il y a le nombre de gamins qui rentrent dans des charcuteries pour se dire « je veux bien faire un apprentissage pour apprendre le pâté en croûte », c'est-à-dire qu'il y a une ou deux générations qui n'ont pas eu de repères gastronomiques et qui se disent maintenant « qu'est-ce qu'on va raconter, nous qui sommes nés dans l'Hexagone, on n'a rien à raconter, et finalement raconter un terroir, une qualité, un produit, et la vraie vie du vivant, bah, c'est quand même pas mal. Quoi. Je vous laisse manger chaud, je reviens.
Est-ce qu'on peut vous demander votre plat préféré, monsieur?
Ah non, mais j'ai pas de plat préféré, moi. Non, mais je vous dis, non, mais là, je viens de goûter quelque chose de petit marron avec une mousse de châtaigne, c'était délicieux.
Et c'est ce qu'on a en... C'est pour la carte d'octobre, ça?
C'est pour la carte d'octobre. Ah, et c'est délicieux. Et non, moi, j'ai pas de plat préféré. Je suis vraiment le type qui picore tout le temps. Mais il y a un instant bonheur pour moi, c'est quand même un très bon pain de seigle, du beurre et des sardines à l'huile. Et alors, chaque fois que je dis ça à quelqu'un, il dit ouais, ça te rappelle quelque chose.
Les rayons de sardines à l'huile, ils sont dévastés.
Ah, mais j'ai beaucoup de mal à en trouver des millésimés maintenant. Mais ça, c'est très très bon. Ça aussi, c'est un savoir-faire français. Tous ces produits-là, bah, finalement, là, je suis en train de défendre une jeune femme. Son papa est décédé, il faisait des ventrèches de thon en boîte. Bah, elle me dit, je ne sais pas qui les vendent, parce qu'il faisait un truc, c'était un petit bijou, à coûter entre 10 et 15 euros la boîte. J'ai dit, tu ne peux pas vendre ça n'importe où, ou tu ne peux pas laisser vendre ça, ça va être acheté par une boîte, je ne sais plus de quel pays. Je dis, bah non, ça part du patrimoine français, c'est dommage. Bon appétit.
Merci. C'est à toi, droit.
C'est bon.
C'est excellent.
C'est quoi cette question?
C'est une question particulière. Je... Thank you.
Merci. Est-ce qu'il y a du vin ?